La paix de Dieu soit sur nous. Nous allons lui donner gloire en écoutant sa parole. Et ce matin, je vais vous donner une prédication un peu dure. Dure, pourquoi dure? Dure parce qu'aujourd'hui, les gens, vous savez, lorsqu'ils disent « Oui, dites-nous des choses belles, des choses qui nous font plaisir. » Mais dans la parole de Dieu, il y a des choses aussi qui nous font du mal, pas spécialement du mal, mais qui nous font réfléchir. Et des fois, nous ne voulons pas l'entendre. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement bien installés dans ce monde. Et je réponds un peu à ce qu'il est paru dans un journal mardi dernier. J'ai retiré ça. Je ne sais pas si vous le voyez, hein. La fin du monde surviendra-t-elle en 2012? Vous savez qu'il y a déjà une date, hein? Le 21 décembre 2012. Donc, nous avons encore 6 mois. Hein? Donc, à chacun de nous de réfléchir. Hein? Et vous savez, l'idée de la fin du monde, c'est depuis le commencement, ça a été. Hein? Les gens, ils ont constamment parlé de cette fin du monde. Bon nombre de gens, ils donneraient beaucoup d'argent pour connaître cela. Mais les apôtres de Jésus-Christ même, à un certain moment, ils ont demandé au Seigneur dans Matthieu 24, il dit, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde ?» Une fin du monde, il y a une fin du monde. Alors, la Bible, le titre de mon message, c'est « La Bible est la fin du monde ». La Bible, est-ce que la Bible, elle parle de la fin de ce monde? C'est ça qui compte. Pourquoi la Bible? Parce que c'est le seul livre sur lequel nous pouvons compter. Et pas écouter à droite, à gauche, des hommes, même soi-disant spirituels, qui ont avancé des dates, mais ces dates ne se sont jamais, à ces dates-là, la fin du monde ne s'est jamais réalisée. Donc la Bible, c'est notre seule et unique source. Moi, personnellement, je crois dans la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité. Je crois qu'elle vient de Dieu. Je crois que Dieu, il nous a tout donné dans sa parole. Vous savez, la parole de Dieu... Je ne suis pas médium, hein. Ne venez pas me voir, Aldo, et lis-moi la main. Hein. Mais je peux vous dire ce qui va arriver. Ce qui s'est déjà passé du commencement, et je peux vous dire tout ce qui va arriver jusqu'à l'état éternel. Vous me direz, mais comment le sais-tu? Mais je le sais parce que Dieu, il m'en parle dans la parole. Du commencement jusqu'à la fin, le Seigneur, il parle. Et alors, on va voir quelques points dans lesquels Dieu, il nous parle, dans sa parole, de la fin du monde. Déjà, dans Apocalypse, chapitre 1, verset 19, c'est un verset qu'on connaît, peut-être même par cœur. Vous savez, ce verset-là, c'est le cœur même de l'Apocalypse. Vous savez, l'Apocalypse, en grec, c'est révélation. Le seul qui appelle cela révélation, c'est les témoins de Jéhovah. C'est la seule chose qu'ils ont fait de bien. Ils appellent l'Apocalypse, pas comme nous, Apocalypse, mais révélation. C'est la révélation de Jésus-Christ. Nous, on l'appelle Apocalypse. Et qui dit Apocalypse, il pense à quoi? La fin. Mais c'est une révélation. Et regardez ce qu'il dit au verset 19. Il dit, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Là, ce verset, c'est le cœur même de l'Apocalypse. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle à Jean et lui dit, écris ce que tu as vu. Qu'est-ce que c'est qu'il a vu, Jean, avant le verset 19? Il a vu la gloire de Jésus-Christ. Il a vu Jésus-Christ assis sur le trône de Dieu. Il a vu Jésus-Christ, tous lui donnaient gloire et honneur. Il l'a vu assis, encore une fois, sur le trône. Il l'a vu en tant que juge. Voilà pourquoi il a dit, écris ce que tu as vu. Et il a écrit, lisez chapitre 1, de 1 à 19, et vous voyez ce que Jean il a vu. Il a vu quoi? Il a vu Jésus-Christ. Il a vu les dieux tout-puissants. Il a vu celui qui est assis sur le trône. Et ensuite, lui dit, écris ce que tu as vu, ce qui est. À partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 4, là, le Seigneur, il parle à Jean de ce qui est. Et qu'est-ce que c'est? De quoi il nous parle dans ces deux chapitres? Il nous parle des églises, les sept églises. De la première église, l'église primitive, la première église après que Jésus-Christ est monté au ciel, jusqu'à la dernière, sixième et septième église, chapitre 3. Et là, il y a deux églises. Il y a l'église de l'Odyssée, et il y a l'église de Philadelphie, hein, l'église des frères. Aujourd'hui, nous sommes dans cette église-là. Il y a l'église de l'Odyssée, qui est l'église apostate. C'est l'église qui n'a pas Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et il y a l'église de Philadelphie. D'ailleurs, au chapitre 3, il y a ce verset que tout le monde connaît. Il y a Jésus qui frappe, 3:20. Hein, et il demande à une église, il ne demande pas à un cœur de s'ouvrir. Nous, on l'utilise. Oui, le Seigneur, il frappe à ton cœur. Apocalypse 3:20, il frappe à ton cœur. Mais lisez bien, il ne frappe pas au cœur de quelqu'un. Il frappe à la porte d'une église. Ça veut dire quoi? Que Jésus, il n'est pas là. Que Jésus, il n'est pas là. Voilà pourquoi il a dit, ce qui est. Ce qui est, c'est les églises. Ensuite, il a dit ce qui est et ce qui doit arriver. Et là, c'est à partir du chapitre 4, premier verset, le Seigneur il dit à Jean, monte ici. C'est-à-dire que l'Église, il va rejoindre son Seigneur et son Sauveur. Par la suite, dans les différents chapitres, jusqu'au chapitre 22, il y a une alternance. Un peu il décrit le ciel, un peu il décrit la terre. Pendant que l'Église elle est dans le ciel, ici sur terre, il y a la colère de Dieu qui va s'abattre ici sur cette terre, sur tous ceux qui ont refusé la vérité. La colère de Dieu ici sur terre, dans le ciel, le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, pour nous qui avons été enlevés, nos œuvres, ils seront jugées. Après le tribunal de Christ, tout est écrit dans les chapitres d'Apocalypse, hein, mes frères et sœurs. Je ne vous invente rien. Hein. Après le tribunal de Christ, il y a les noces de l'agneau. L'Église, il va épouser le Seigneur Jésus-Christ. Une fois ici sur terre, il va y avoir la colère de Dieu et il va y avoir ce personnage de l'Antichrist qui va se révéler. Il va se présenter en tant que Messie. Le peuple d'Israël, il va l'accepter. Il va construire un temple. Les sacrifices, les lévites, tous ceux qui servent, ils vont reprendre pendant 3 ans et demi. Passé les 3 ans et demi, l'Antichrist, il va tourner son visage. Avant, il était tout bon, tout gentil, il a ramené la paix. Les gens, ils criaient paix, 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 mais Esaïe, il dit, non, il n'y a pas de paix. Après 3 ans et demi, il va faire le volte-face. Qu'est-ce qui va se passer au ciel après 3 ans et demi? Hein? Il y a lutte dans le ciel avec l'archange Michel. Il va combattre Satan. Il va le vaincre et il va le jeter ici, sur cette terre. D'ailleurs, un verset d'Apocalypse, « Malheur, malheur à la terre, car le diable est descendu. Et c'est là que Satan, il va prendre possession de cet antichrist. Et il va y avoir des tueries partout. Ceux qui vont refuser la marque de la bête, ils vont être tués. Ils vont essayer de détruire Israël, de détruire Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il veut empêcher cette promesse de Dieu d'instaurer le royaume de Dieu ici sur cette terre. Mais lorsque une énorme armée de 200 millions de personnes, il va se tourner pour détruire Jérusalem, le peuple d'Israël, c'est là que le Seigneur Jésus il va revenir avec ses saints, avec nous. Et il va détruire l'Antichrist. Il va y avoir le jugement des nations, de ceux qui sont vivants, ils vont être jugés. Et ensuite, il y aura les royaumes, le millénium. Après le millénium, Satan, il va être libéré, délivré, et il va convaincre les habitants de la terre à se rebeller contre Dieu. Il va y avoir encore la guerre, et c'est là que Satan, il va être défait complètement, et il va être jeté dans les temps de feu, avec ceux qui vont être jugés dans les grands trônes blancs. Après les grands trônes blancs, c'est l'état éternel. Après les grands trônes blancs, ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, il va être complètement chamboulé. Voilà, je connais ça, mais c'est Dieu qui le dit. Vous pouvez regarder dans l'Apocalypse. Alors, que dit-elle la Bible à propos de cette fin du monde? Notre monde va-t-il s'améliorer? On est dans un monde, même il y a des religions qui disent, oui, le monde il ira de mieux en mieux, avec les découvertes, avec les inventions qu'il va y avoir, tous ils vont être convertis. Et le Seigneur Jésus, il va revenir, lorsque tout le monde est converti. Ça c'est entièrement faux, antibiblique. Nous lisons dans les derniers temps, chapitre 18 de Luc, verset 8. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ils disent que le monde il va se convertir. Et ici, il nous est dit clair et net que lorsque le Fils de l'homme il viendra ici sur la terre, trouvera-t-il la foi ? Donc, s'il se pose cette question, ça veut dire que tous ne seront pas convertis. Et nous lisons aussi dans 2 Timothée 4, 3 et 4. Il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais croyez-vous pas qu'on vit dans ce temps-là? Les gens ils ne supportent plus que quelqu'un lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez essayé de parler, de témoigner avec quelqu'un. Lorsque vous sortez le nom de Jésus, il vous dit « Ah, halte, halte, arrête-toi, ne me parle pas de religion. » Ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà pourquoi je vous ai dit aujourd'hui, je vous dis quelque chose de désagréable. Parce que dans le monde dans lequel on vit, dans le monde dans lequel peut-être on se plaît, ce monde-là, il va disparaître. Vous avez des possessions, des maisons, des comptes en banque, tout ça, et vous mettez toute votre espérance en ces choses-là. Sachez que ces choses-là, ils vont disparaître. Il ne restera rien. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a tellement de prédicateurs, des gens qui apportent d'autres croyances, mais qui ne sont pas les croyances de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils nous promettent de belles choses. Oui, venez à telle réunion, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des miracles. Mais qui es-tu pour déjà établir à l'avance qu'il y aura des miracles? Les miracles, c'est Dieu qui les fait. Lui et lui seul. Ah, bien sûr, la salle, elle était pleine. Hein? La salle, elle était pleine. Dieu ne donne pas des pensées comme ça. Dieu, il nous dit les choses claires et nettes comme elles sont. Il te dit, hein, je donne mon nom parce que je ne vais pas faire les vôtres. Il me dit, Aldo, tu n'es rien du tout. Tu es pécheur. Et bientôt, la condamnation est sur toi. Ma colère va s'abattre sur toi si tu continues comme ça. Tu n'es rien du tout. Tu es moins que rien. Vous lisez les autres livres d'aujourd'hui. Il y a cette pensée humaniste qui met l'homme au ciel. L'homme, l'homme, l'homme. Et Dieu te dit dans la Bible, l'homme, il n'est rien. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce que Dieu te dit. L'homme, il n'est rien. L'homme, il est condamné. Mais ce que Dieu nous dit par la suite dans la Bible, c'est que malgré que nous sommes condamnés, il a pourvu à notre salut. Et tous ces gens-là, il y a des gens qui racontent des fables. Oui, après la mort, il va y avoir une autre chance. Il n'y a plus de chance. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Le seul moyen pour éviter le jugement, c'est en acceptant Jésus-Christ. Si on a Jésus-Christ, plus aucun jugement. Voilà la seule chose qu'il faut compter. Et pas écouter les gens qui disent tout et n'importe quoi. C'est Dieu qui compte. Comme ils ont chanté les sœurs. Servez l'Éternel. C'est ça qui compte pour nous. Et pas écouter des fables, des gens qui disent tout et n'importe quoi. Et il nous est dit aussi dans Matthieu 24, 12, il dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Est-ce qu'il y a de l'amour aujourd'hui dans ce monde? Aucun. On le voit de moins en moins, même chez les chrétiens. Le monde, il parle quoi aujourd'hui? Il parle du réchauffement de la planète. Dieu, il te parle du refroidissement de l'amour. Il n'y a plus d'amour dans ce monde. Il n'y a plus. Même entre frères et sœurs, des fois. Et Dieu, il a manifesté son amour. Heureusement que Dieu nous a aimés. Vous voyez comme les pensées du monde ne sont pas les pensées de Dieu. Dans les derniers temps, l'amour du grand nombre se refroidira. Je me rappelle quand j'étais jeune, on avait toujours les portes ouvertes. Moi, j'habitais dans un petit village. Hein. Je vous parle déjà il y a 60 ans. Hein. Mais aujourd'hui, les portes sont fermées. Hein, il y a les petits Judas. Je me suis toujours demandé pourquoi il est appelé Judas. Hein. On frappe à la porte. Hein, si c'est quelqu'un qu'on aime, on ouvre. Sinon, on ne répond même pas. Judas. C'est appelé ça. Les portes étaient toujours ouvertes. Mais aujourd'hui, avec cette méchanceté des gens qui ne veulent pas entendre les noms de Dieu, qui ne veulent pas connaître Dieu, comment voulez-vous que l'amour ne se refroidisse pas? Est-ce que le monde va s'améliorant? Oh non. Dans 2 Timothée 3, il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Est-ce que vous êtes dans un temps facile aujourd'hui? Difficile, n'est-ce pas? Très difficile. Et pas seulement ici en France, partout. Hein? Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Écoutez la façon de montrer ce que nous sommes. Les hommes seraient égoïstes. Est-ce qu'ils sont égoïstes, les hommes? Oh, que oui. Amis de l'argent. Hein? Fanfaron. Hautain. blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait les forces. Éloigne-toi de ces gens. Ici, il décrit la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans cette société-là. Et ici, il dit, sache que dans les derniers temps, ne pensez-vous pas que vous avez encore 50 ou 60 ou 80 ans à vivre. Peut-être qu'ils seront là, mais on ne sait pas. Le Seigneur, il nous a dit, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Car la fin, il peut venir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. C'est la société d'aujourd'hui. Est-ce que le monde, il va s'améliorant? Oh non. Empirant, oui. Il empire. Dans 2 Pierre 3, il dit, « Sachez avant tout que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant sur leur propre convoitise. » Des moqueurs. Ça ne vous est pas arrivé? Lorsque vous parlez du retour de Jésus-Christ, des gens qui vous rionnez, ça fait 2000 ans que vous nous prêchez cela et encore il n'y a rien arrivé. Des moqueurs. Ah, tu crois en Dieu encore? C'est ça. Ils se moquent de toi, ils te laissent tomber. Pourquoi? Parce que tu crois en Dieu. On vit dans une société athée. Athée. Et il y a quelqu'un qui l'a fait un sondage. C'est l'époque des sondages, n'est-ce pas? Moins de 4 Français sur 10 croient en Dieu. Et des gens, ils disent, « Ah, Seigneur, envoie-moi en mission. » Mais c'est ici la mission, en France. C'est ici la mission, en France. Moins de 4 Français sur 10 croient en Dieu. D'abord chez toi, dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville. C'est ici. Notre mission, c'est ici. Pas ailleurs. Ah, on aime bien. Ah, Seigneur, envoie-moi. Non, commence chez toi, là. Commence chez toi. Et dans 1 Jean 2, 18, il nous est dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. » Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. On ne voit que ça aujourd'hui. Des enseignements contre la parole de Dieu. Et qui c'est l'antichrist? C'est celui qui nie la venue de Jésus-Christ en chair. C'est lui qui nie que Jésus est Dieu. C'est ça l'antichrist. Et il y en a plein. Des gens, vous lui parlez de Jésus. Jésus. C'est un homme qui a dit des belles choses, qui a fait du bien, mais il n'est pas Dieu. Et combien il y en a? On a vu il y a 15 jours, lorsqu'on parle des Juifs qui ne veulent pas entendre les évangiles, ils ne veulent pas entendre parler des chrétiens. Et alors, en tant que chrétiens, nous devons savoir leur parler avec les livres qu'ils ont. Et on l'a vu il y a 15 jours. Je vous ai parlé de l'évangile de Moïse. Moïse, il a prêché l'évangile aux Juifs. Et c'est avec cet évangile-là, ces paroles des prophètes, que nous devons annoncer aux Juifs, pas avec les mots du Nouveau Testament. Parce qu'ils ne croient pas dans les chrétiens. Ça m'est arrivé d'aller faire des distributions dans les synagogues. Ils m'ont dit, mais tu es quoi, toi? Ben, je suis chrétien. Ah, tu es chrétien? Mais dis donc, les chrétiens, ils ont fait un bon travail avec les croisés et compagnie. Eh oui, des chrétiens. Il y a Pierre, lorsqu'il a voulu utiliser l'épée, il lui a dit quoi, le Seigneur? Il a dit, remets l'épée dans ton... Ce n'est pas avec l'épée que Jésus, que Dieu, il va gagner les âmes, mais avec l'amour, car Dieu a tant aimé l'amour qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. Est-ce que le monde il va s'améliorer? Non. Il n'y a plus d'amour, et pourtant Dieu, il a manifesté son amour. Une autre question qu'on peut se poser, c'est, la Bible décrit-elle la fin du monde? Bien sûr qu'il la décrit. Je vous lis dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Comme un voleur. Mais vous savez, hein, les voleurs, on ne sait pas quand les voleurs y arrivent. Hein. T'es tranquillement endormi et paf, le lendemain, tu te réveilles, il n'y a plus rien. Le Seigneur va venir comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée par le feu. Pourquoi ? Parce que le feu... C'est l'élément qui purifie. La terre, elle a besoin d'être purifiée, parce que la terre, elle est souillée. Et dans les plans de Dieu, il nous est dit qu'il va y avoir ici la nouvelle Jérusalem. Tous les hommes, ils vont habiter en paix. Et il faut que tous ces hommes, ils habitent dans une terre purifiée. Voilà pourquoi cette terre qu'on voit aujourd'hui, elle sera complètement purifiée, transformée, par les feux, purificateurs de Dieu. Oui, la Bible en parle. Ésaïe 51:6, il dit, « Lève les yeux vers les ciels et regarde en bas vers la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. » Vous lisez l'Apocalypse, les quatre chevaliers de l'Apocalypse, les trois chevaliers de l'Apocalypse, parce que le quatrième, c'est le Seigneur Jésus, mais les trois chevaliers de l'Apocalypse, ils vont venir ici pour jeter les désarrois parmi les habitants de la terre. Et les gens, comme il dit ici Esaïe, ils périront comme des mouches. Pourquoi ? Parce que la colère de Dieu, il va s'abattre ici sur cette terre. Voilà ce qu'il va arriver. Apocalypse 21, 1, il nous est dit, « Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Qui dit nouveau ciel et une nouvelle terre, ça veut dire que cette terre a été changée. Ça n'existe pas. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, Apocalypse 21. Hein? « Puis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. » Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Voilà ce que le Seigneur lui dit. Notre système solaire, il va disparaître. Pourquoi ? Parce qu'il nous est dit, toujours dans l'Apocalypse, que Dieu il sera notre soleil, notre lumière. Il y aura la Jérusalem céleste ici, qu'il se trouvera dans un endroit pur, comme ceux qui l'habitent. Qui c'est qui habite là? La Jérusalem céleste? Mais c'est nous l'Église, c'est nous les saints de Dieu. C'est tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, il nous a purifiés, il nous a lavés. Et donc, il faut que l'endroit où nous allons habiter, il faut que ce soit un endroit pur. Voilà pourquoi la Bible parle de cette fin du monde. Il en parle, mais pas à la même époque que les hommes, ils parlent. Alors, la Bible donne-t-elle une date à la fin du monde? Parce que la fin du monde, il va y avoir. Mais quand? On l'a lu tout à l'heure, les disciples. Quand arrivera-t-il la fin du monde? Vous savez, la Bible ne donne pas de date. Jésus, il dit dans Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Il peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir maintenant, vous savez. Maintenant, il peut venir. Personne. Voilà pourquoi je vous ai montré l'affiche. Et ça, c'est une affiche qui est partout. Hein. Ce calendrier des Mayas, des gens qui ont vécu des centaines de milliers d'années, ils ont sorti un calendrier et ils ont fixé une date de la fin du monde, le 21 décembre 2012. Et il y a des gens, on parle avec des gens de cette fin du monde. Ah oui, le 21 décembre, voilà la fin du monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, en 1999, le 30 décembre 1999, l'année 2000, oh là là, le monde il va s'écrouler. Non, le monde il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a la main de Dieu qui le tire, qui le retient. Les jours que Dieu il va retenir, il va retirer sa main, alors là, tout va s'écrouler. C'est un peu comme notre vie. Hein. Qui c'est qui nous tient debout? Mais c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre propre force. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous donne la santé. C'est Dieu qui tient tout. Voilà pourquoi il dit les jours et l'heure, personne ne les sait. Mais elle est décrite chronologiquement dans le livre de l'Apocalypse. Et il donne des repères importants. Mais une chose à savoir, c'est que le compte à rebours, il a déjà commencé. Déjà, oh, la fin du monde, il va arriver. Mais le temps, c'est déjà commencé. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Parce que la Bible nous le dit. Regardez 1 Pierre, chapitre 1, verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné à la fondation du monde. De qui parle-t-il? Mais de Jésus-Christ. Il a été prédestiné au commencement de toutes choses à être quoi? À être le sauveur. À donner sa vie pour nos péchés, à nous racheter, prédestiné avant la fin du monde et manifesté à la fin des temps. À la fin des temps. Lorsque Jésus il est né à Bethléem, les fins des temps ils ont commencé. Eh oui. Nous, voilà pourquoi on dit toujours que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment, parce qu'on est dans les derniers temps. Dans Hébreux chapitre 1, il nous a dit, Dieu nous a parlé par des visions, par des songes, par les prophètes. Mais dans les derniers temps, il nous a parlé par son Fils. On est dans les derniers temps. Est-ce que vous êtes conscient que vous vivez les derniers temps? Ah, quelqu'un dit, ah oui, mais j'ai que 10, j'ai que 12 ans, j'ai que 15 ans, j'ai que 20 ans. On est dans les derniers temps. Un de ces jours, le Père, il va donner l'ordre que le temps de la grâce, la dispensation de la grâce est terminée. Et c'est là qu'il va s'abattre la colère de Dieu. Le compte à rebours est commencé. On est dans les derniers temps. Et le prophète Daniel, comme nous a parlé les frères là, le prophète Daniel, il nous a montré, dans les chapitres 7 à 9, il nous a montré tout le développement de ces nations. Avec la statue, je ne sais pas si vous avez lu ce chapitre, cette grande statue avec la tête d'or, la poitrine, les quatre empires babyloniens, les Mèdes, les Perses, les Grecs et les Romains. Et ça, c'est l'histoire. Hein? Les Romains, il n'y a pas longtemps. Hein? Et il nous dit qu'après ce royaume, il va y avoir encore un royaume qui ne sera jamais détruit. Et c'est le royaume de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ il va venir, il va mettre un terme aux nations. Et ça, c'est dans les derniers temps. La Bible nous dit toutes ces choses-là. Et Daniel, il nous en parle. Et Daniel, vous savez, le peuple d'Israël, il était encore en déportation, hein. À nous de prendre garde. Hein. Pour cette fin du monde, le Seigneur, Il donne des signes. Des signes. La fin du monde. Il donne des signes. Mais les signes qu'il donne, par exemple dans Matthieu 24, hein, les signes qu'on connaît et qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas le retour du Seigneur, mais c'est pour l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi on dit, oui, bientôt le Seigneur il va venir nous prendre. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Parce que le Seigneur il nous a donné des signes. Quels sont ces signes? Des guerres. Il y aura des guerres partout. Regardez dans ce monde, il y a des guerres partout. Il y aura des famines. Il y en a beaucoup qui ne sont pas à manger. Hein? Des famines. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des persécutions des croyants, des chrétiens qui seront persécutés. Ça, c'est les derniers temps avant que le Seigneur Jésus il vienne. Tous ces signes-là, ils sont décrits dans Matthieu 24. Vous savez qu'à le lire, hein? Et je n'en vante rien. Et c'est des choses qu'on voit aujourd'hui, partout. Hein? Il y a nos frères haïtiens, là, tous ceux qu'ils ont subi. Hein? Haïti, partout, au Chili, là, tous des tremblements de terre, des inondations, des tsunamis. Ça, c'est à se préparer, car bientôt le Seigneur va venir à prendre son Église. Mais ça, c'est encore rien. Parce que dans l'Apocalypse, hein, les signes qui vont précéder le Seigneur, hein, ils seront mille fois que ces signes-là. Et ce signe-là, le Seigneur, il nous les donne. Avec le chevalier de l'Apocalypse, avec les sept fléaux, avec les sept coupes. Après tous ces signes-là, le Seigneur il va venir ici pour instaurer son royaume. On dit toujours, oui, le peuple juif, il a souffert. Il a souffert. Mais vous savez, avec l'Antichrist, il va souffrir encore plus. 10 fois plus. Il va les tuer comme les mouches. Mais à un certain moment, le Seigneur va intervenir. Pourquoi? Parce qu'il doit instaurer son royaume. Parce qu'Israël, c'est le peuple de son royaume. Voilà pourquoi il intervient. Voilà pourquoi il intervient. Et c'est là, il faut que nous ayons bien dans notre tête que la Bible, c'est le seul livre qui nous parle de cela. La Bible. J'ai ici la Bible complète. En 2010, c'est disponible en 2527 langues. 2527 langues. C'est le seul livre qu'il est vendu par des milliards. Mais les gens, ils l'achètent juste pour l'avoir à la maison. Mais dans la Bible, il y a la vérité de Dieu. Et Dieu, il nous montre toutes ces choses. Bien sûr que ces choses-là, elles nous font peur. Parce que notre vie, ça peut terminer d'un moment à l'autre. Sur qui est-ce que vous comptez? Si cette fin, elle arrive? Sur vos possessions? Sur vos maisons? Sur votre compte en banque? Il n'y a rien que... Vous n'allez rien emporter. Hein? Rien. Tout reste ici. C'est ce qui compte, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Alors, que dois-je faire pour me préparer à cette fin du monde? Dieu nous parle que cette fin du monde, il va y arriver. Que dois-je faire? Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé... Hein? C'est souillé encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Dans notre propre camp, il faut changer de vie. Car ça peut arriver à n'importe quel moment. Le Seigneur, vous savez, dans les évangiles, il y a cette tour de Siloé qui était tombée là. Alors ils ont posé la question, il a dit, mais... Cette tour, il est tombé, il a tué tant de personnes. Ils étaient des pécheurs, ces gens-là. Et Jésus, il a dit, non, ce n'est pas qu'ils étaient des pécheurs. Vous êtes peut-être plus pécheur qu'eux. Mais vous, vous n'avez pas été touché par cela. Donc, réfléchissez. En sortant d'ici, en fou, en voiture, ils peuvent nous écraser. Hein? Il faut être prêt. Il faut être prêt. La fin du monde, il va venir à n'importe quel moment. La fin du monde, je parle pour l'Église qui l'est enlevée. Ensuite, c'est la colère de Dieu. Hein? Pour éviter ces choses-là, il faut être prêt. Amos, il nous le dit. Hein? Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Ce n'est pas une question de vivre quelques années ici-bas, bien ou mal. Vous savez, j'ai toujours pensé à ça, moi. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vivent riches, qui n'ont jamais besoin de rien? Et il y en a d'autres qui n'ont rien à manger, ils n'ont rien pour vivre. Croyez-vous que c'est un Dieu juste? Il a fait ça, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas ici sur cette terre pour avoir ou pas des richesses. Nous sommes ici sur cette terre pour choisir notre camp. Nous sommes dans la richesse, il faut choisir notre camp. Nous sommes dans la souffrance, dans les besoins, il faut choisir notre camp. Du côté des dieux ou du côté du diable. Et notre temps est compté. Parce qu'on ne sait pas combien de temps on doit vivre. Il y en a qui arrivent à 90 ans. Il y en a qui meurent à 20 ans. On ne sait pas. Jacques nous dit que notre vie, c'est comme un nuage. Un coup de vent et plus de nuages. Donc, il faut choisir notre camp, du côté des dieux ou de l'autre côté. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est se réconcilier avec Dieu. Et il nous le dit dans Colossiens 1, 21-22. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Voilà ce que Dieu nous dit. Malgré notre péché, malgré que nous méritons la mort, Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu, il est intervenu et il nous a sauvés par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il faut faire, se réconcilier avec Dieu. Oui, nous sommes des pécheurs, mais par Jésus, je vais me réconcilier avec toi. Car si on est réconcilié avec Dieu, il peut arriver, le Seigneur Jésus. Il va nous prendre avec lui. Il ne nous laissera pas ici, sur cette terre, à subir la colère de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un en colère. Mais c'est rien. Hein? Là, c'est la colère de Dieu. Croyez-moi, Dieu, il est bon, mais lorsqu'il s'est mis en colère, hein, c'est la colère. Hein? Pourquoi la colère? Parce qu'ils n'ont pas voulu l'écouter. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Croyez-vous que Dieu, il soit content, là, regardant ce monde? Pas du tout. Il nous regarde et nous dit, regarde-moi ça. J'ai tout fait pour eux. Je leur donne toutes les manifestations de mon amour. Et ils ne veulent pas. Que dois-je faire? Ils ont choisi le mauvais camp. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et vous savez, on est encore vivant. Et on peut encore changer. N'attendez pas qu'on soit mort pour changer. Hein. Il n'y a pas une autre chance. Une fois qu'on est mort, c'est le jugement. Mais maintenant qu'on est vivant, on doit dire, merci Seigneur de me donner encore l'opportunité. Et je dois changer de vie. Je dois me repentir de mes péchés. Je dois me tourner vers cette croix où Jésus a donné sa vie. Car c'est là qu'il m'a réconcilié avec Dieu. C'est là qu'il m'a purifié, qu'il m'a lavé. Et à partir d'aujourd'hui, je vais être dans les camps de Dieu. Il peut venir quand il veut. Je suis prêt. Je suis prêt. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à notre Dieu. Car Dieu, ce n'est pas un homme comme nous. Les hommes sont des menteurs. Attention, en disant les hommes, j'ai dit hommes et femmes. Hein. Je parle en général. Hein. Les hommes sont des menteurs. Ils disent une chose et ne la font pas. Mais Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il l'a fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Voilà pourquoi il nous a dit, le monde, la Bible nous dit que ce monde, il va être détruit. Mais nous, on peut changer notre destinée. Comment? En acceptant Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il a tout prédisposé, tout est prêt afin que sa gloire se manifeste. Mais il nous donne encore un peu de temps. Dieu est patient. Mais sa patience, un jour ou l'autre, il va se terminer. Et lorsque cette patience, il sera terminée, sommes-nous prêts à le rencontrer? Ça, c'est à chacun de nous de donner une réponse. Et faites-le. Et n'attendez pas, car vous ne savez pas quand vous allez le rencontrer. Ça peut être maintenant, comme dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais si c'est maintenant, et vos péchés n'ont pas été purifiés, où est-ce que vous allez passer l'éternité? Amen.